d'autres. Il en a déjà reçu avant, au début de son ministère, au milieu, et tout à la fin, il va recevoir, eh bien, des visions du Seigneur. Eh bien, Ézéchiel, c'est un prophète, je dirais, qui a rencontré beaucoup de difficultés dans son ministère. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a eu autant de visions, d'ailleurs, et de la part du Seigneur. Et vous vous rappelez, Ézéchiel avait voulu voir un réveil dans la vie du peuple d'Israël. Il prêchait pour ce réveil. Il parlait de la part du Seigneur pour ce réveil. Mais le réveil tardait, frères et sœurs. Le peuple refusait de se repentir. Et le peuple de Dieu ne voulait pas vivre sa vie pour Dieu, à la gloire de Dieu. Ne voulait pas vivre sa vie dans la consécration avec son Dieu. Et dans les chapitres précédents, ce passage, particulièrement les chapitres 33 à 36, vous avez peut-être déjà lu ça dans vos lectures bibliques personnelles, quotidiennes, eh bien, Dieu a fait savoir au prophète Ézéchiel qu'un jour viendra, frères et sœurs, où lui-même, en sa qualité de Dieu, il procédera à la restauration de son peuple. Parce que, comme vous le savez, le peuple était dans une situation difficile, une situation apparemment désespérée. Dieu dit à Ézéchiel, au chapitre 33 à 36, il va reprendre ses annonces, mais il dit à son prophète, « Je vais restaurer mon peuple, je vais susciter un réveil extraordinaire au sein de mon peuple, dans la vie de mon peuple. » Son peuple, qui était l'église de l'époque, l'église d'alors, eh bien, le peuple est en captivité à Babylone, vous le savez, c'est la chute de Jérusalem, et c'est la captivité babylonienne. Eh bien, cette promesse de réveil, promesse de restauration, frères et sœurs, que Dieu a fait à Israël, avait pour but de redonner de l'espoir, de redonner l'encouragement dont le peuple de Dieu avait réellement besoin et par rapport au fait qu'il était littéralement dans le désespoir. Le verset 11 nous l'a montré. Et il était dans le doute. Le peuple de Dieu était chiffonné par le scepticisme, par le pessimisme. Et toute la nation d'Israël, frères et sœurs, était plongée dans une situation eh bien, de dysfonctionnement. Et maintenant que Dieu a fait cette promesse de restauration, comme je l'ai dit au chapitre 33 à 36, eh bien, au chapitre 37, le texte que nous venons de lire et la suite, eh bien, Dieu donne une nouvelle vision, une vision extraordinaire à son serviteur. Et l'intention de Dieu à travers cette vision, eh bien, c'était de confirmer la promesse qu'il a faite à Israël au chapitre 33 à 36. Son intention, c'était de donner une illustration de l'accomplissement de cette promesse, de comment, et non seulement il va restaurer Israël, mais également de comment il est le seul capable de restaurer Israël. Dieu a montré à son serviteur et quelque chose d'extraordinaire. Et dans le but de lui dire, regardez bien, les promesses que j'ai faites, je suis capable, eh bien, de les tenir en faveur de mon peuple. Nous l'avons lu ensemble au verset 1 à 2. Ézéchiel commence à nous raconter, frères et sœurs, eh bien, son expérience extraordinaire dans cette vision. Quand il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Laissez-moi vous dire, il y a de ces révélations, il y a de ces visions. Il y a de ces paroles que vous allez recevoir de la part de Dieu. Ça prend que la main de l'Éternel soit sur vous. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? La main de l'Éternel fut sur moi, comme la main de l'Éternel fut sur Moïse, comme la main de l'Éternel fut sur Esther, comme la main de l'Éternel fut sur David, comme la main de l'Éternel fut sur Josué. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. et me déposa dans un milieu, dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2, une vallée, notez une vallée remplie d'ossements. Notez, la main de l'Éternel fut sur moi. Notez, il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il y a de ces vallées dans lesquelles tu te retrouves. Ce n'est pas parce que Dieu a l'intention de te faire du mal. C'est parce que Dieu a l'intention de te faire voir sa gloire. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Dans une vallée remplie d'ossements. Dieu va le bénir. Dieu va lui faire voir sa gloire, mais c'est dans une vallée d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux l'oratoire, comme si ce n'était pas suffisant de le déposer dans le milieu de ces vallées-là. Il me fit passer autour d'eux. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Et l'autre jour, quand Dieu a posé la question, quand il y avait la famine, quand la foule, la famille s'approchait, était là, attendait une délivrance de la part du Seigneur, vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Dieu a posé la question à Philippe, côté, où allons-nous trouver de l'argent pour nourrir ces gens-là? Je vous avais dit que Dieu voulait attirer son attention sur le problème. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Avant, tu ne peux pas comprendre la gloire de Dieu si tu n'as pas compris l'ampleur du problème. Est-ce qu'on est là? C'est la même chose qui arrive ici. Dieu a fini de le déposer au milieu de ces eaux desséchées et pour s'assurer qu'il voit l'ampleur de la situation, pour s'assurer qu'il voit l'ampleur du problème, qu'est-ce que Dieu fait, frères et sœurs? Il me fit passer auprès d'eux et tout autour, voilà. Et voici, ils étaient fort nombreux, fort nombreux. S'il y avait un os, peut-être que les théologiens de... Peut-être que les théologiens, mes excuses, peut-être que les théologiens libéraux diraient, ah ben, c'était juste un os, c'est un accident. Hein? Mais ici, le prophète dit que les eaux étaient fort, fort nombreux à la surface de la vallée. Première indication. Non seulement les eaux étaient fort nombreux, encore pour couper court à toute tentative des théologiens libéraux de démentir cette histoire vraie, l'homme de Dieu ajoute, ils étaient complètement secs. Est-ce que l'Église l'a là? Ils étaient complètement secs. Alors, ces eaux desséchées, blanchies, dispersées par surcroît, Dieu l'a dit au verset 11, symbolisaient la situation du peuple d'Israël. Ça symbolisait l'absence totale de la vie en Israël. La vie, à tous les points de vue, hein, il y a des théologiens qui mettent l'accent seulement sur la vie spirituelle, mais c'est à tous égards qu'il n'y avait pas de vie. La vie spirituelle d'Israël n'était pas séparée de sa vie économique. La vie identitaire, culturelle, sociale d'Israël n'était pas séparée de sa vie spirituelle. Alors, quand Dieu dit que le peuple était dans la désolation, il parle à tous égards, que ce soit sur le plan physique, le peuple est divisé, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social, économique, culturel, identitaire, le peuple était dans la désolation. Et cette image d'ossements desséchés, frères et sœurs, décrit à l'époque le peuple de Dieu, la nation de Dieu qui est appauvrie parce qu'il est sous l'emprise, sous la domination ennemie en ce moment, au moment où Ézéchiel prophétise, frères et sœurs. Il était épuisé, il était découragé, le peuple était militairement, eh bien, sous les bottes ennemies en raison de son abandon du Seigneur dans le passé, frères et sœurs. Voilà pourquoi le Dieu que nous servons dans sa grâce, eh bien, il donne cette vision à Ézéchiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, pour dire à son peuple, regardez bien, tout n'est pas fini pour toi. J'ai un plan glorieux de redressement pour ta vie. Le Dieu de gloire, frères et sœurs, le Dieu souverain des cieux, le Dieu de la terre, le Dieu de la création, le Dieu de l'histoire voulait s'assurer à travers cette vision que, eh bien, les enfants d'Israël sachent et comprennent qu'il avait encore une place de prédilection, une place de choix dans le cœur de Dieu, et cela en dépit de la situation dans laquelle le peuple patauge, frères et sœurs. Verset 2, « Il me fit passer auprès d'eux tout autour, dit Ézéchiel, et voici, encore une fois, ils étaient fort nombreux et ils étaient complètement secs. Moi, j'aimerais vous faire remarquer que, en montrant à Ézéchiel ses vieux os secs, Dieu lui demanda, comme il a demandé à Philippe, Fils de l'homme, verset 3, ces os pourront-ils revivre? C'est le test de la foi, est-ce qu'on est là? Philippe a échoué le test en partie, parce qu'il a obéi à l'ordre du Seigneur de faire asseoir la foule. Il a échoué le test en partie, il aurait 50 sur 100. Vous vous rappelez, frères et sœurs? Philippe aurait 50 sur 100. Parce qu'il a dit à Seigneur, même si on avait 200 dollars, on n'aurait pas été capable d'acheter du pain pour nourrir toute cette foule-là, pour que tout le monde en ait un morceau de pain. Il a échoué en partie le test. Mais quand le Christ a dit, faites-les asseoir, il n'a pas trouvé cela ridicule. Il les a fait asseoir avec ses collaborateurs, ses collègues, disciples. Vous vous rappelez, frères et sœurs? Eh bien, Ézéchiel a réagi autrement. Ézéchiel répond, Seigneur éternel, tu le sais. Cette maladie peut-elle être guérie? Seigneur, tu le sais. Cette famille peut-elle être restaurée? Seigneur, tu le sais. Petite Sarah, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle sera un jour ramenée à la raison? Est-ce qu'elle comprendra un jour la gloire de Dieu? Seigneur, tu le sais. Cette église peut-elle retrouver sa gloire d'antan? Seigneur, tu le sais. Cet emploi-là, peux-tu le ravoir ou avoir un autre équivalent que tu as perdu? Seigneur, tu le sais. Remarquez bien, peuple de Dieu, toute pensée à l'idée que ces os pourraient humainement revivre est une absurdité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il n'y a pas d'espoir, humainement parlant, à ce que ces os puissent revivre. Parce que si on parle de situation désespérée, voilà la vallée d'ossements secs, voilà une situation désespérée, frères et sœurs. Cette situation est désespérée, il faut rajouter cela. Elle est désespérée quant à l'homme naturel. Mais elle est possible quant au Dieu surnaturel, est-ce qu'on est là? Parce que le surnaturel transcende le naturel, est-ce qu'on est là? Parce que l'invisible transcende le visible. Parce que l'intangible transcende le tangible. Ah, il y a ça aussi à considérer dans l'affaire. Ézéchiel savait cela. Il le savait parce que, j'ai dit tout à l'heure, qu'il a vu la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, à cette question capitale, remarquable et surprenante du Seigneur au verset 3, « Ces os pourront-ils revivre ?» Ézéchiel répond, « Seigneur, tu le sais. Tu le sais. » La réponse d'Ézéchiel témoigne d'une chose, frères et sœurs. C'est que pour l'homme, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Sa réponse témoigne d'une chose. L'homme est impuissant, Dieu est tout puissant. C'est ce que sa réponse témoigne. Ézéchiel avait cette conviction que Dieu est capable de renverser ce spectacle, cette situation qui est décrite sous ses yeux dans la vallée d'ossements, frères et sœurs. Quand Ézéchiel a agi ainsi, vous savez ce qu'il a fait? Il a glorifié Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Nous glorifions Dieu quand nous sommes ici pour chanter ensemble la gloire de Dieu. Nous glorifions Dieu quand nous disons qu'il est capable de tout faire. Il a glorifié Dieu. Il honore Dieu. Il manifeste du respect, de la révérence pour l'insondable pouvoir caché de Dieu et sa volonté mystérieuse, frères et sœurs, d'accomplir ses desseins en tout temps, comme il veut, frères et sœurs. Y a-t-il encore un potentiel de vie dans ces ossements desséchés? Dis-moi ce que tu en penses, l'oratoire. Dis-moi ce que tu en penses, Ézéchiel. Dis-moi ce que tu en penses, ce que t'en sais même. Dis-moi ce que tu crois. Seigneur, tu le sais. Est-ce que l'Église a compris ce qui a passé là? Seigneur, tu le sais. Remarquez bien, la réponse d'Ézéchiel est plus grand, est plus extraordinaire qu'un oui. Hein? Vous vous attendiez à un oui. Voilà pourquoi Dieu a honoré sa foi. Sa réponse dépasse un simple oui. La réponse qu'il donne englobe le oui, mais elle dépasse le oui. Elle est plus que positive. En somme, à l'analyse textuelle, la réponse n'est ni positive ni négative. Et pourtant, elle inclut la positivité. Elle a la réponse à oui là-dedans. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Autrement dit, frères et sœurs, il donne à Dieu plus que ce qu'il confesse, plus que ce que Dieu s'attend à ce qu'il confesse. Il est en train de dire à Dieu, tu es tout puissant. Ça, c'est pas faux pas ta kafel. Ou qui ne doit pas faire sous pavlé, mon kafel ou kafel plus que ça. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Autrement dit, non seulement il loue la toute-puissance de Dieu, mais il loue l'omniscience de Dieu. Il loue tous les attributs de Dieu à travers cette réponse, frères et sœurs. Voilà pourquoi Dieu ne tarde pas à faire voir sa gloire à son serviteur, frères et sœurs. Au verset 4 à 6, la parole de Dieu nous dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, verset 5. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. La fois passée, j'ai prêché sur ce titre qui dit, Dieu sait ce qu'il fera. Vous vous rappelez, frères et sœurs? J'ai remis à Dodley, je ne vous l'ai pas dit. Donc ça continue aujourd'hui. On est toujours dans le même titre. Dieu sait ce qu'il va faire. Est-ce qu'on est là? Oui. Dieu sait ce qu'il fait. Exactement comme la fois passée. Tandis qu'Israël gémit, quelques-uns sont peut-être en train de prier, mais au verset 11, Dieu nous dit ce qui se passe. Israël a des pensées négatives, pessimistes, sceptiques. Tandis qu'il a ces pensées-là, Dieu, lui, a un plan pour son peuple, frères et sœurs. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Regardez tout, ce sont tous des verbes d'action, hein, au futur simple. Je vous donnerai des nerfs. Il n'y a pas ici, penses-tu, il se peut que, on verra. Dieu dit, je ferai croître sur vous de la chair. Le pensant divin, le je agissant divin. Je vous couvrirai de peau. Encore, je mettrai en vous un esprit. Il n'y a pas de supposition ici, il n'y a pas d'hypothèse, c'est une réalité, c'est une promesse. Et vous vivrez. Vous savez pourquoi c'est d'autant plus vrai cette promesse? C'est parce que Dieu l'accomplira pour sa gloire. Dieu donne cette promesse pour sa gloire. Israël est impénitent, vous le savez. Il est là dans ce qu'il est à cause de son péché. Mais Dieu dit, je le ferai pour ma gloire. Quand Dieu dit, et vous saurez que je suis l'Éternel, il est en train de dire, je le ferai pour ma gloire. Parce que je veux que tu saches que je suis l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Ça donne tout son sens aux promesses. En sorte que même si me faillit, promesse, ça va accomplir. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dans ce contexte, Jérémie est déjà prophète, bien sûr. Dans ce contexte, prophétise a le sens de parle ma parole. Est-ce que l'Église a là? Parle ma parole, prêche ma parole, enseigne. Évoque des versets bibliques, évoque des passages bibliques, médite la parole, fais que la parole soit un instrument de ministère entre tes mains, comme chrétien, comme pasteur, comme apôtre, comme fidèle, comme diacre, comme fais que la parole soit un instrument dans tes mains. Parle, prophétise. Dieu lui dit d'adresser la parole aux eaux et de leur dire d'entendre la parole du Seigneur. Frères et sœurs, vous avez compris, et peut-être mieux que moi, que le moyen que Dieu utilise ici, eh bien, pour faire accomplir sa gloire, pour eh bien, réaliser son dessein, en l'occurrence, redonner vie à ses ossements desséchés, c'est la parole, frères et sœurs. Remarquez bien, c'est la parole qui redonne vie, c'est la parole qui vivifie, c'est la parole qui sanctifie, c'est la parole qui élève, d'où la nécessité pour chaque église, pour chaque chrétien, pour chaque famille, de faire de la parole de Dieu la base de leur vie, le centre de leur vie, frères et sœurs, de placer la parole au cœur de leur vie. Il ne doit y avoir de compromis sur la parole. L'auteur du psaume 119 l'a bien compris lorsqu'il dit au verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière. » Regardez bien, ça c'est la situation, ça c'est la réalité, ça c'est son cas. Mais, il dit dans le même verset 25, « Rends-moi la vie selon ta parole. » Selon ici a le sens de « par ta parole ». C'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui donne un réveil. Au verset 28, il dit « Mon âme pleure de chagrin » et il dit « Relève-moi selon ta parole. » La parole est tout, frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, Jean 6, verset 63, nous trouvons un verset semblable. Lorsque et le texte dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Mais ce n'est pas terminé. Les paroles, pardon, que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors la parole, c'est le moyen eh bien, par lequel Dieu donne la vie. Il parle, il dit, et la chose existe, arrive à l'existence. C'est la parole que Dieu utilise pour élever. C'est la parole que Dieu utilise pour recoudre, pour rafistoler. C'est sa parole que Dieu utilise pour restaurer. C'est sa parole que Dieu utilise pour redresser. C'est sa parole qu'il utilise pour rétablir, pour sauver, pour réhabiliter, pour attirer des cœurs et les consacrer à lui. La parole, si vous croyez cela, dit Seigneur, parle. Puis au verset 7, le prophète nous confie sans embâche ceci en disant, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Voyez-vous, alors qu'il prophétisait, il y a quelque chose qui va se passer. Alors qu'il parle, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un mouvement qui va se produire. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Quand la parole de Dieu est prêchée, quand la parole de Dieu est écoutée, quand la parole de Dieu est méditée, quand la parole de Dieu est lue, quand la parole de Dieu est mémorisée, il y a quelque chose qui se passe, même si tu ne le vois pas, dans ton corps, dans ton église, dans ta famille, dans ta pensée, dans ton esprit, il y a un mouvement qui se fait. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a un mouvement qui se fait, frères et sœurs. Ézéchiel obéit sans commentaire. Il obéit sans logique, il obéit sans crainte, il obéit sans doute à la parole de Dieu. Il obéit sans revendication. Et les résultats ont été probants, frères et sœurs. Les eaux ont commencé à s'approcher ou à se rapprocher les uns des autres, frères et sœurs. Au milieu du bruit, les eaux se rapprochent, frères et sœurs. Comment se fait-il que ces eaux puissent s'approcher? Mais ces eaux sont approchées parce que la main puissante de Dieu les a guidées, frères et sœurs. Dieu les a replacées artistement pour que ça forme un corps humain harmonieux, frères et sœurs. Tout est possible à celui qui croit, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire une chose. Il a tout placé. Ça m'amène à vous dire ceci. Ce dont les familles, les églises, les villes, la culture moderne, les ministères ont le plus besoin, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de chanter. Nous avons besoin de la communion. Nous avons besoin de vivre ensemble, bien sûr. Mais ce dont nous avons besoin en premier, c'est la parole, frères et sœurs. C'est la parole. Les eaux qui s'apprêtent à revivre, qui commencent à se rapprocher, ils ne le font pas sur la base des traditions humaines. Avez-vous remarqué cela? Il n'a pas parlé sa parole. Cela ne se fait pas sur la base de son évangile. Ils ont repris forme en attendant qu'ils reprennent vie, mais parce que le prophète de l'Éternel a parlé. Parle sur ton problème de la part du Seigneur. Parle sur tes défis de la part du Seigneur. Parle sur tes obstacles. Parle sur ton église. Parle sur ton ministère. Parle sur ton prochain qui a un problème. Parle sur ton avenir. Parle sur ta profession. Parle. Et quelque chose se produira de la part du Seigneur, au nom de l'Éternel. Commence à se rapprocher. Mais Dieu n'avait pas fini de manifester sa gloire. Ils étaient encore au stade de squelette. Avez-vous remarqué cela? C'est tant mieux par rapport à tantôt quand ils étaient éparpillés. Vous vous rappelez, frères et sœurs? Dieu n'avait pas encore fini de travailler. Mais inquiétez-vous pas. Quand Dieu commence, il finit toujours. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il va continuer le travail. Dieu, il y a une atmosphère de squelette en ce moment. Oui, les eaux se sont rapprochées. Mais Dieu veut aller plus loin que ça. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Il va faire exactement ce qu'il avait promis de faire. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et au verset 8, Dieu va régler cet aspect du problème là, au verset 8. Et Jérémie, Ézéchiel nous dit, je regardais, verset 8, et voici, ça commence à aller plus loin là. Il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Ils passent du stade d'os éparpillé, à corps, à squelette, au stade squelettique. Et là maintenant, ils deviennent des corps. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Dieu fait toutes choses à merveille. Dieu fait toutes choses à merveille. Il y a de ces problèmes que tu traverses dans ta vie. Peut-être que Dieu est déjà au milieu de la résolution du problème, puis tu ne le sais même pas. Dieu a déjà commencé à résoudre le problème, il est au milieu. Tu ne le sais même pas. Et pourtant, il va continuer à travailler, frères et sœurs. Mais remarquez bien, si les eaux passent de stade d'ossement éparpillé à corps, à squelette, de squelette à corps, mais même à ça, le problème n'est pas résolu encore. Est-ce que vous avez remarqué cela? Au verset 8, l'homme de Dieu nous dit, mais il n'y a point en eux des... Oh, bon, c'est ça qui est important beaucoup là, non, frères et sœurs? Ça qui est important beaucoup là. En d'autres termes, et Dieu n'a pas fini de manifester sa gloire. Et alors, il n'y avait pas d'esprit, de souffle en eux. Alors, qu'est-ce qui va se passer au verset 9? Qu'est-ce qui va se passer au verset 9? Au verset 9, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, ne lâche pas, parle, enseigne, parle, prêche la parole. Prophétise, parle à l'esprit cette fois. Prophétise, fils de l'homme, parle à l'esprit ici cette fois-ci, ça va être prié, hein? Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Fils de l'homme, et dis à l'Esprit, prie l'Esprit de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents. Les quatre vents, les quatre points cardinaux, les quatre coins de la terre ici. Hein. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Pour qu'il y ait un réveil dans une famille, dans une église, dans la vie d'un homme, ça prend deux choses en premier. La prière et la parole de Dieu. Est-ce que nous avons la phrase? La prière et la parole. De toute façon, les deux commencent par la lettre P. Ça va là? La prière, deux P. Prière et pas? Et parole. Prière et parole égale puissance. Et remarquez bien, frères et sœurs, il a prié à l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la prière et la parole est rajoutée à l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Sans onction, il n'y a pas de réveil. Est-ce que l'Église l'a là? Sans onction, il n'y a pas de réveil. Tu peux beau prêcher, pasteur. Tu peux beau parler. Mais si le peuple de Dieu n'accepte pas de rentrer dans le plan de Dieu pour être soumis au Saint-Esprit de Dieu, le travail va être accompli parce que Dieu l'a promis, mais ça va être difficile. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? D'où la nécessité pour le peuple de Dieu d'entendre la parole de Dieu, de s'attacher à la parole de Dieu et également de rester sur ses genoux et d'être soumis. D'être soumis, je dis bien, soumis au Saint-Esprit de Dieu. Le texte est là. Je n'invente rien. Le texte est là. Ça prend deux choses. La parole et le CD. Qu'on en a là. Cela étant dit, frères et sœurs, eh bien, l'Esprit descend. Est-ce que non là? L'Esprit descend. Les eaux sont redevenues vivants. C'est le reportage qu'Ézéchiel nous fait au verset 10. Verset 10. J'ai prophétisé. Voyez-vous l'obéissance de l'homme de Dieu? Selon l'ordre qu'il m'avait donné. Il n'a pas trouvé ça ridicule de parler de la part du Seigneur. Comment ça se fait? Je parle à un peuple depuis des années, depuis des lustres. Le peuple ne s'est jamais tourné et vers Dieu. Maintenant, Dieu me demande de prêcher à des eaux. Si le peuple n'a pas écouté, comment Zoc a fait écouter? Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il n'a pas gardé ça. Et voyez-vous ce que Dieu a fait? Alors que le peuple refuse de l'écouter, mais les eaux l'ont écouté. Hein? Ça fait me songer au côté de Jésus dit. Si nous pas servi moi, nous pas crié à moi-même, Pierre a crié à moi-même. Si vous pas obéi, bon Dieu a fait zo obéir, oui. Mais je sais que vous êtes un peuple obéissant. Ah, il aurait pu, mais il a une expérience de prédication vraiment douloureuse. Il vit au milieu d'un peuple rebelle. Mais il n'a qu'à cela ne tienne, il fait ce que Dieu lui dit de faire. Il est un soldat. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Chaque disciple de Dieu est un soldat. Nous recevons l'ordre de la part du Seigneur, nous les exécutons. Que les ordres soient sensés ou insensés, nous les exécutons. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir la gloire de Dieu. C'est ce que Ézéchiel nous dit, nous prouve ici. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Verset 10. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Avec Dieu, ou ap camper sous deux pieds un jour quand même. Par contre, si c'est Goka Weli, a get en well. Ou bien pour camper sous deux pieds un jour quand même. La jeunesse, la famille, les aînés, l'église. Ou ap pour camper sous deux pieds un jour quand même. Et comme les eaux étaient nombreux, c'était une armée nombreuse également qui se tint sur son pied de pied. Très nombreuse. Et le terme armée est utilisé ici à dessein, hein, par le Saint-Esprit de Dieu. Les morts passent de stade de mort au stade d'armée, au stade de peuple, de combattants, pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Nous sommes une armée. Ézéchiel a prêché et Dieu a transformé la vie de son peuple. Au verset 11, nous l'avons déjà parlé un peu, Dieu lui-même interprète sa vision. Il y a de ces visions-là que Dieu donne. Les théologiens, oh mon Dieu, c'est vraiment beaucoup de temps de prière, d'études, de méditation, de lecture, de relecture pour interpréter la vision. Ici, Dieu a décidé souverainement d'expliquer la vision. Parce que c'est important pour Dieu, frères et sœurs. Dieu explique la vision au verset 11. C'est important de voir ça, hein. Il dit... fils de l'homme, zo sa yo wela, ces eaux que je t'ai fait voir, au milieu desquelles tu t'es retrouvé, c'est toute la maison d'Israël. Comme je vous l'ai dit en introduction du sermon. Et Dieu va expliquer comment ça, Seigneur, que des eaux, vallées d'ossements, représente la nation d'Israël. Comment ça? Dieu n'a pas attendu que la question lui soit posée, il est Dieu. Il comprend la nécessité d'expliquer à son serviteur de quelle manière, comment ça se fait que ces eaux représentent la nation d'Israël. Et Dieu dit à son serviteur, ils n'arrêtent pas de dire, nos eaux sont desséchées. Ils en ont fait le constat. Notre espérance est détruite. Vous savez quelle espérance qui est détruite? L'espérance de la terre promise, oui, que Dieu avait donnée à Abraham, Isaac et Jacob, oui. Notre espérance est détruite. Ça fait un peu sens, humainement parlant. Dieu leur promet une terre, un pays, une nation, et là, ils sont en esclavage. Donc, l'espérance est détruite. Est-ce que ton espérance est détruite aujourd'hui? Par rapport à quoi ton espoir est-il détruit? Par rapport à quoi ton espérance est-elle détruite? Nous sommes perdus, dit-il. Alors voilà. Si, quand les eaux étaient éparpillées, ils représentaient Israël. Quand ils se sont rassemblés pour reprendre vie, former des personnes, des corps humains et se tenir sur leurs deux pieds, ça représente encore le peuple d'Israël. C'est-à-dire, voilà l'état de mon peuple et voilà ce que je vais faire de mon peuple, avec mon peuple, pour ma gloire et par ma gloire. C'est dans les deux sens que ça représente Israël. Ce n'est pas quand il se tient sur leurs deux pieds. C'est avant et après. Alors Dieu dit, c'est pour ça que j'ai parlé au début, d'illustration de ce que Dieu va faire. C'est ce que Dieu dit qu'il va faire. Votre situation spirituelle, la situation de votre famille, de vos enfants, de votre travail, de votre santé, pourquoi pas peut-être, de vos finances, la situation de vos relations, de votre ministère, peut sembler aujourd'hui sans espoir de revitalisation. Peut ressembler aujourd'hui sans espoir de revitalité, de vitalité, de vie. Ça peut sembler sèche ou desséché. Sans espoir de reprendre de la substance. Sans espoir de reprendre de la consistance, sans espoir de reprendre du sens, sans espoir de reprendre de la pertinence. Mais tout comme Dieu a promis de restaurer son peuple, il peut restaurer ta situation également. Est-ce que l'Église l'a croit ce matin? Quel que soit le degré de sécheresse, dans quelques pans de ta vie ou aspects de ta vie, que tu vis un temps de sécheresse, de désolation, de détresse, le Dieu qui a remis ses eaux en état, en forme harmonieuse, artistement bien travaillée, il est capable de tout replacer dans tous les aspects de ta vie. Il suffit que tu dis, Seigneur, tu le sais. C'est juste que ça prend. Tu le sais. Il viendra des moments où tu te plaindras, tu murmureras. Tu ne seras pas le ou la dernière, la dernière personne à le faire. Je vous ai montré des cas d'hommes de Dieu, Élie. Était arrivé à un moment de sa vie. Il se posait des questions quant à son Dieu. Il posait des questions. Est-ce qu'il y aura du renouveau? Est-ce qu'il y aura du regain de vigueur? Est-ce qu'il y aura un regain d'espoir, de vitalité? Ils se sont tous posé des questions. Nous avons vu le cas de Philippe Lodio. Ça arrive. Mais si tu veux continuer, c'est où vous voulez. Dieu a donné des promesses merveilleuses dans sa parole pour toi. Il peut remettre les pendules à l'heure. L'espoir de chaque église réside dans la parole, la prière et la présence, l'onction et l'activité du Saint-Esprit de Dieu. Il en est de même de chaque famille, de chaque homme, de chaque femme, de chaque cœur. Oui, ces eaux peuvent revivre. Israël ne l'a pas mérité, mais Dieu l'a fait pour sa gloire. Il a bien dit, je ne le ferai pas pour toi, si c'est pour quand ou même pour t'adouer exterminer, mais pour ma gloire. Ma gloire, c'est quoi? C'est ce que je l'ai promis à Abraham, à Israël, à Abraham et Isaac. C'est ça pour ma gloire. Je veux honorer ma promesse. Un auteur a écrit, les périodes sombres de la vie voilent parfois la bonté de Dieu. On ne voit pas la bonté de Dieu parfois parce qu'on est dans des périodes sombres. Et ces périodes nous donnent le sentiment d'être seul, abandonné au monde. Ces périodes transforment parfois, et dit l'auteur, ça ne vient pas de moi, et la foi en scepticisme. Ces périodes transforment l'espérance en cynisme. L'auteur continue pour dire, eh bien, dans la sombre nuit du doute, ceux qui s'attendaient à Dieu, comme Israël dans le passé, réagissent de deux manières possibles. Soit en se rapprochant de Dieu ou en lâchant Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Quelle part choisiras-tu aujourd'hui? Il dit, quand la tentation de tout lâcher nous assaille, il est important, frères et sœurs, de nous souvenir qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour naître, un temps pour planter, un temps pour soigner, un temps pour construire, un temps pour souffrir et un temps pour voir la gloire de Dieu, frères et sœurs. Après Elim, après Mara, Wawa Elim, comme on dit. Ou l'inverse, si je ne me rappelle pas. Je veux donner le plan rédempteur. Tout prédicateur qui se respecte doit le faire. Je donne le plan rédempteur. Vous et moi, avant notre conversion, vous pouvez me dire vous-même, m'a dit moi-même. Avant ma conversion, j'étais semblable à ces eaux desséchées. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'était ça ma réalité. C'était ça ma vie. J'étais rebelle, j'étais arrogant envers Dieu. J'étais un blasphémateur. Ma vie ressemblait à une vallée d'ossements desséchés. C'était ça ma vie. Je buvais, je courais après les jupes. Mais vous savez, Dieu a redonné de la chair à mes os. Il a transformé ma vie sépulcrale, ma vie de tombeau, ma vie tombale, ma vie de sépulcre, ma vie de mort. Il a transformé, il a fermé les portes des cavernes de prison de la mort. Il m'a extirpé, il a redonné vie, il a mis son esprit en moi, il a mis sa pensée dans ma pensée, son âme dans mon âme, son cœur dans mon cœur, ses émotions dans mes émotions, ses joies dans mes joies, sa douleur, sa tristesse, sa force dans ma faiblesse. Il m'a tout donné, frères et sœurs. Autrement dit, lorsque l'homme de Dieu, au chapitre 33, 36, 32, annonce la restauration d'Israël, il annonce la restauration de tout le monde, de tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Est-ce qu'on est là? Ils étaient en captivité en Babylone. Et par rapport à leur captivité, Dieu les considère comme étant des gens dominés. Ils étaient sous la domination de l'ennemi. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ aujourd'hui, comme étant leur sauveur personnel, ils sont dans une situation semblable sur le plan spirituel. Ils sont sous la domination, sous l'emprise de l'ennemi que représente Satan le diable. Et Dieu seul peut les prendre sous la main de l'ennemi et le placer dans son royaume. C'est ce qu'il a dit ici. La promesse qui est donnée ici va au-delà d'Israël. Bien sûr, Israël va en jouir sur le plan physique, sur le plan temporel, sur le plan matériel. Mais la promesse dépasse Israël. La promesse est donnée à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. C'est pas affaire d'Israël seulement qu'à régler ici. Bien sûr, il y a une composante terrestre, physique, temporelle à l'accomplissement de cette promesse. Mais ultimement, la promesse est éternelle. C'est une promesse spirituelle et ça va bien au-delà d'Israël. Ça concerne toutes les nations, tous les païens comme vous et moi, tels que nous avons été. Est-ce que l'Église a compris le plan de Dieu aujourd'hui? Ce qu'on appelle le plan rédempteur quand on prêche les textes de l'Ancien Testament, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu est en nous. Il œuvre parmi nous. Vous savez, le seul obstacle à l'activité du Saint-Esprit, c'est moi, c'est toi. Si nous nous soumettons à l'œuvre du Saint-Esprit, au Saint-Esprit, l'a œuvré dans la vie, nous, l'a fait des prodiges dans la vie, nous, l'a mis vie dans la vie, nous. Cela ne se peut que tu marches avec Dieu, puis ta vie n'a pas de sens. Le Saint-Esprit donne du sens à la vie des gens. Ça ne se peut. Comment ça se fait? Tu n'as pas envie de vivre alors que tu as le Saint-Esprit dans ta vie. Ça n'a pas de sens. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la vie. Dieu, c'est la vie. Ça n'a pas de sens. Ton découragement, le Saint-Esprit peut redonner de la force à toi. Il peut mettre sa puissance dans tes membres. Il peut mettre sa puissance dans ta bouche. Si vous voulez comprendre qui est le Saint-Esprit, non problème, moi, ouais. C'est là un problème. Si tu veux savoir qui est le Saint-Esprit, eh bien, trouvez-vous dans une situation impossible. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu es dans les épreuves, tu as comme un choc absorbeur. Tu ne le ressens même pas, frères et sœurs. Un choc absorbeur. Choc absorbeur. J'ai un choc absorbeur, moi, là. J'ai un choc absorbeur. Et mon choc absorbeur, mon pare-choc, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, depuis mon côté, je n'ai pas qu'à prêcher l'évangile, je n'ai pas qu'à parler de mon Dieu, je n'ai pas qu'à vivre l'évangile. J'aime de prêcher là. Allez. Parce que je connais très bien ces paroles-là qui ont dit une vérité. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Peuple de Dieu, ton Dieu est grand. Ton Dieu est bon, ton Dieu est fidèle. Il va continuer à te soutenir, à te cacher sous ses bras puissants et victorieux. Et tu vas continuer à rendre gloire à ton Dieu. Tu vas continuer à rendre gloire à ton Dieu. Tu vas continuer à rendre gloire à ton Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nos frères et sœurs. Amen.